Robert, j'appelle de Bouy-Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujima au Kassai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de nous accepter chez vous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Paroles aux Auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur Radio Kapi, la fréquence de la paix. Le député national Tony Mwaba a déposé vendredi 7 février dernier une proposition de loi sur la cybersécurité et cybercriminalité au bureau de l'Assemblée nationale. Certains observateurs estiment que cette proposition de loi est opportune et permettra de normaliser l'espace virtuel pour qu'il soit un lieu numérique où il fait beau vivre, au lieu d'être un espace où se développent un certain nombre des pratiques marginales qui portent atteinte à la dignité humaine, à la réputation des personnes physiques et morales. Alors, qu'en pensez-vous ? Dans cet échange citoyen, pendant 57 minutes, nous tenterons de recueillir vos avis et considérations et même votre lecture citoyenne sur cette loi. Mesdames et messieurs, une fois encore, bienvenue.
Parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs. Radio Kapi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine Droits et Citoyenneté. Mieux connaître vos droits ou bien les défendre. Mieux connaître vos devoirs ou bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15 et 20h30. Tous les jeudis à 13h30.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembu.
À l'adresse pa@radiokapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 09 97 06 6330 ou bien au 09 97 06 4969 pour votre intervention en direct. Merci à Mimi Kindou qui assure la mise en onde de cette émission et à Nico Kalambay qui la réalise. Nous avons le plaisir d'accueillir en ligne monsieur Kodjo Ndokouma. Professeur Kodjo, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour monsieur Lungembo.
Alors vous êtes spécialiste en numérique et plus précisément dans la lutte contre la cybercriminalité et d'entrée de jeu, quels sont à titre indicatif des agissements répréhensibles de toutes sortes attentatoires donc si vous voulez qui rentrent dans le cadre de la cybercriminalité tant pour les intérêts des particuliers qu'à ceux de la chose publique qui se multiplie dans l'espace virtuel qu'on appelle communément Internet aujourd'hui.
Oui, je vous remercie de la question. La cybercriminalité, c'est l'ensemble du phénomène criminel qui soit utilise les moyens de technologie de l'information et de la communication ou soit qui vise à porter atteinte aux technologies de l'information et de la communication. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, le réseau est devenu l'artère du corps social et il est devenu en fait le sang de notre économie. Et donc, vous avez des atteintes qui sont portées sur des personnes, sur des biens, et qui peuvent être portées même sur l'État. Les atteintes qui sont portées sur les personnes ou sur d'autres cibles sont de plusieurs ordres. Vous avez par exemple les injures publiques, vous avez les attentats à la pudeur, vous avez les escroqueries et les extorsions qui existaient déjà dans le passé, mais qui...
Voilà, je crois qu'il a, plus comme il plaît sur Kinshasa. Il y a vraiment ces problèmes de réseau. Est-ce que professeur, vous êtes encore avec nous en ligne? Voilà, on a des petits soucis avec la ligne. Alors,
je vous entends parfaitement.
Voilà. Je disais tout à l'heure qu'on a des petits soucis, mais je crois que la ligne ira de mieux en mieux. Mais quelle est généralement la particularité de la cybercriminalité?
Oui, la particularité de la cybercriminalité est soit d'utiliser les technologies de l'information et de la communication comme moyen de réalisation dans le monde opératoire, soit d'utiliser les technologies de l'information et de la communication comme cible. Et donc, nous avons dedans les infractions classiques, comme les injures, comme les attentats à la pudeur, qui aujourd'hui permettent de publier les gens sur Internet dans des positions qui ne leur sont pas confortables, ou d'injurier les gens en étant tout à fait anonyme. Maintenant, vous avez aussi les infractions classiques, qui sont les infractions qui portent atteinte au système d'information lui-même. Lorsqu'on pirate, par exemple, le compte Twitter d'une autorité pour pouvoir lui faire dire des choses incroyables et après, l'autorité fait des démentis. Mais vous avez également l'utilisation des moyens des télécommunications pour troubler à l'ordre public. Vous savez qu'il y a eu des émeutes, il y a eu des marches dans le pays et ces marches étaient souvent coordonnées par des SMS qui étaient envoyés à des groupes d'émeutiers pour leur demander de contourner telle barrière de police ou pour servir de mobilisation. Et aussi, certains fake news, vraiment bien orchestrés, bien ciblés, avaient permis de créer des fois de l'émoi ou de la panique dans l'ensemble de la ville, en disant par exemple qu'il y avait des troubles du côté de la Gombe pour des gens qui étaient du côté de Ngaliema, et chacun essayant de faire le sauve qu'il peut dans le sens où il a reçu un SMS un email ou un WhatsApp lui disant que telle était la situation de l'ordre public. Alors, oui. La cybercriminalité est ce phénomène, oui.
Oui, allez-y. La cybercriminalité, c'est un phénomène, vous l'avez dit.
La cybercriminalité est ce phénomène que nous venons de décrire dans trois dimensions, d'utiliser les moyens de télécommunication, de prendre pour cible les moyens de communication, mais aussi d'utiliser les moyens de communication comme une diffusion de masse. Maintenant, la réponse à la cybercriminalité est ce qu'on appelle la cybersécurité. Donc on ne peut pas confondre la cybercriminalité qui est un ensemble de comportements criminels avec un profil des délinquants qui est formé des gens qui ont une compétence informatique, qui est formé également des gens qui ont un âge entre 17 probablement et 24 ou 34 ans, avec la cybersécurité, qui est l'ensemble de moyens législatifs, institutionnels et policiers qui sont déployés pour pouvoir répondre à ce phénomène de cybercriminalité dans le champ civil. Mais lorsqu'on va dans le champ de l'intégrité du pays et de la sécurité du territoire, on est dans la cyberdéfense.
Oui, mais quand vous parlez de la cybercriminalité, de l'autre côté, il y a certains analystes qui défendent aujourd'hui, il y a un néologisme, je me permets quand même de le dire, la cyberdémocratie. Et quand nous faisons un pas en arrière, notamment avec les mouvements qui s'est passé il y a quelques temps au niveau de l'Afrique du Nord, avec les vents, qui a pratiquement balayé beaucoup des dictateurs, ou encore qui a occasionné des changements au niveau du système politique dans certains pays, que ce soit à l'Algérie, en Libye ou encore en Égypte. Et tout est parti de l'Internet. Est-ce qu'on peut dire qu'effectivement, l'Internet aujourd'hui a contribué aussi à l'avancement de la démocratie?
En réalité, l'Internet est porteur d'une pensée qu'on appelle la contre-culture du New Age. Ça veut dire que c'est une pensée qui est faite par les libertaires. Ça veut dire des personnes qui disent qu'on ne peut pas limiter l'expression de l'homme et cette expression trouve les moyens davantage de sa redondance ou de son paroxysme dans les technologies de l'information et de la communication. Donc l'infrastructure de l'information a cessé simplement de mettre en relation les gens, c'est devenu une infrastructure de liberté. Et donc, je vous étonnerai en disant que l'enjeu de liberté ou de subversion ou de renversement d'une dictature dont vous parlez a déjà été pris en compte à l'époque d'une ordonnance du président Mobutu datant de juillet 1987. Et cette ordonnance condamnait le fait d'utiliser l'informatique, que ce soit l'informatique isolée, l'informatique embarquée ou l'informatique en ligne, comme un moyen de pouvoir faire de la subversion ou de l'atteinte à l'autorité établie. Et c'est démontré que dans certains pays comme en Syrie, comme dans les pays à peu de liberté, les personnes qui veulent s'exprimer le font à travers un réseau qui est délinéarisé. Ils le font aussi à travers un réseau qui est public, mais qui n'est pas sous le contrôle de l'autorité publique. Et il y a un rapport aujourd'hui qui démontre que la RDC est parmi les pays qui ont battu à un moment donné le record en termes de durée de longévité de coupure d'Internet. Et puis, en 2016, les Nations Unies ont consacré le droit d'accès à l'Internet comme étant un droit fondamental à pouvoir reconnaître maintenant dans les différentes constitutions des pays. Donc, vous avez avec l'Internet aujourd'hui le paradigme de liberté, mais qui doit toujours être accompagné du paradigme qui rime avec de sécurité, de sorte que la liberté est la fille de l'audace et la sécurité est la fille de la peur, et les deux combinés donnent une sagesse de régulation de la liberté sur Internet. Mais bon, en RDC, pour revenir à des questions plus basses pour sur 15 secondes, nous avons connu entre janvier 2017 et septembre 2018, selon les statistiques de la direction de la police ENTIC, 1882 cas de plaintes de cybercrime en République démocratique du Congo. Et ça, c'est important. Il y a des détails sur la sextortion, sur la pédopornographie, sur le détournement des numéros de téléphone, sur les arnaques à l'emploi, et ainsi de suite.
Alors, parce que on va ouvrir les standards pour accueillir les auditeurs qui nous ont rejoints. Vous avez parlé du paradigme de liberté et qui doit rimer avec le paradigme de sécurité. Mais est-ce que là, ça peut nous renvoyer à accepter qu'effectivement, cette loi sur la cybercriminalité et la cybersécurité est vraiment opportune pour la RDC afin de résoudre cette question de fraude en ligne, diffusion de contenus pornographiques, mettant en scène des enfants, opérations de piratage, usurpation d'identité, traitement illicite des données à caractère personnel. Mais à cela, comme le pensent certains observateurs, il va falloir l'adapter avec les codes pénals de la RDC. Est-ce que vous êtes d'accord?
Oui, il y a peut-être une très bonne idée de l'honorable Tony Mwaba, mais c'est une proposition de loi qui se superpose avec un projet de loi introduit par le gouvernement déjà en avril 2017, adopté à l'Assemblée nationale le 7 mai 2018 et adopté définitivement par les deux chambres du Parlement le 22 novembre 2018. Donc, dans le titre 4 de ce projet de loi, pour ne pas dire de cette loi, il y a la question de la cybersécurité, de la cryptologie et de la cybercriminalité et de la fraude. Et dans les dispositions qui sont dans cette loi ou dans ce projet de loi, il y a déjà certaines qui sont rencontrées par le législateur et qu'il faudra faire une harmonisation au niveau du bureau de l'Assemblée nationale ou de ses services avec le Sénat sur la plus-value apportée par cette proposition de loi qui est opportune. Et je finirai à dire qu'en France, par exemple, lorsqu'on publie une personne nue après que, sur Internet, après que deux tourtereaux se soient mis d'accord de se filmer, la personne qu'on publie nue n'est pas une dévergondée. La personne qu'on publie nue est nue et victime de ce qu'on appelle la vengeance pornographique. Et celui qui publie les sexes tapes est poursuivi à raison de 2 ans de prison de peine possible et de 45 000 à 60 000 euros d'amende. Chez nous, en RDC, on a assisté à une avalanche de publication des sextapes sans que personne ne soit poursuivi, parce que en réalité, l'incrimination n'existe pas. Et je salue l'œuvre de l'honorable Tony Mwaba, qui devra se combiner nécessairement avec l'initiative précédente déposée par le gouvernement et votée par la législature passée.
Merci Kodjo Ndokouma. Nous vous gardons en ligne et nous rappelons que vous intervenez depuis Brazzaville, là où vous êtes en séjour de travail. Merci, et puis on va écouter les auditeurs qui nous ont rejoints à ce débat sur cette loi, l'opportunité, son opportunité ou non, pour en fait résoudre cette question de cybercriminalité et qui aujourd'hui met également en cause la RDC qui bat les records en termes d'ailleurs de durée de longévité, comme vous l'avez dit, des coupures d'internet, et qui parfois, quand on reprend, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres comportements et des agissements qui laissent à désirer. Merci beaucoup. Alors Olivier, vous êtes à Kikwit, Alain Bolodjo à Kinshasa. Gardez la ligne. Et ceux qui viennent à peine de nous rejoindre et qui peuvent également participer à ces débats en composant les 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69.
Oh Mario,
tout le monde saille.
Les grands succès musicaux d'ici et d'ailleurs ont désormais un espace qui leur est spécialement dédié sur votre radio. Gold Music vous fait voyager dans les temps avec une belle sélection bien métissée. Votre belle époque à travers la radio, c'est dans Gold Music. Du lundi au vendredi, de 16h05 à 17h, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi, la radio de toutes les musiques.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembu.
Merci beaucoup, Olivier. Vous êtes à Kikwit. Vous avez souhaité intervenir dans cette émission. Bienvenue, Olivier. Bonjour.
Oui, J.R., bonjour et bonjour à l'invité, à tous les auditeurs.
Vous avez suivi, nous l'avons dit en début, certains observateurs estiment que la proposition de loi de l'honorable Tony Mwamba est opportune et permettra de normaliser l'espace virtuel. Qu'en pensez-vous?
Oui, J.R., je pense que je peux saluer l'honorable Tony pour la simple raison qu'il a voulu anticiper sur certaines choses. Mais je me dis que si nous considérons les attentes de la population aujourd'hui, je crois que dans la grande majorité, cela ne va pas impacter de façon directe le quotidien de la population. Et donc, je crois que c'est très bien de protéger les intimités des uns et des autres. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais de parler d'opportunité actuellement, je crois que je n'irai pas jusque-là. Alors, il y a deux problèmes que nous avons.
Oui, parce que, Olivier, certaines personnes estiment que, finalement, cette avalanche des publications de sextape que nous avons connues ces derniers temps, cette loi, si jamais, pourrait être d'application, ça pourrait résoudre ou arrêter carrément cette hémorragie.
Non, justement, c'est là, j'ajoute ceci. Vous voyez, nous avons des lois. Nous avons un problème d'application des lois. C'est-à-dire que la population aimerait que les premières lois qui ont un impact direct sur leur vie directe, parce qu'en fait, les publications, ça concerne très peu, ça concerne les citoyens ordinaires très peu, ça ne concerne que les gens qui nous dirigent en grande partie et qui sont pris dans des situations malheureuses, et c'est pour ça que ceux qui publient, les publient. Mais alors, vous savez, la cybersécurité, il y a une difficulté pour nous. La première difficulté, c'est d'abord la question budgétaire. J'aimerais d'abord faire savoir à l'honorable Tony, et je pense que l'invité va vous le confirmer, les États-Unis dépensent 13 milliards de dollars chaque année pour assurer la sécurité. Et ça ne suffit pas pour bloquer les attaques. Donc, ça signifie que chez nous, ça va être une loi qui pourra être votée. Mais sur le plan budgétaire, hier, je vous dis que nous n'avons aucun moyen d'assurer cette cybersécurité. Vous avez déjà, il y a sur le plan réel, nous avons la sécurité terrestre, l'espace terrestre, l'espace aérien, l'espace maritime et fluvial. Nous sommes incapables d'assurer
la sécurité
de ces espaces qui sont visibles. Maintenant, l'espace virtuel, moi je pense que nous devons y aller graduellement.
Donc vous estimez que le fait que la cybersécurité ait un coût, et déjà avec les tableaux que nous avons des difficultés pour sécuriser l'espace aérien, la difficulté pour sécuriser l'espace terrestre ou encore maritime, et là ça nous pousse à dire que c'est une question du budget et ça serait pratiquement impossible de penser à la cybersécurité actuellement, à l'heure actuelle à RDC.
Oui, je crois que ce sera la difficulté, la loi sera là, mais on sera buté à des difficultés d'ordre technique, parce que je dois vous dire aussi que nous n'avons pas suffisamment de personnes formées. Les États-Unis forment tous les jours, parce que les personnes malveillantes se forment tous les jours. Et c'est comme ça que les pays développés, la France est déjà là-dedans aussi, l'Angleterre, vous avez suivi les problèmes que l'Angleterre a connus il y a quelques mois avec les blocages des aéroports, avec cette cybercriminalité, là c'est le cyberterrorisme, la France, l'Angleterre, la Russie. Mais nous aujourd'hui, nous allons faire quoi avec une loi dont nous n'aurons aucun moyen de souffler? Les universités aujourd'hui ne savent même pas où nous devons aller pour assurer la sécurité de nos laboratoires. Donc je crois que nous sommes buter une difficulté et nous devons y aller graduellement.
Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, Olivier.
Suivre toutes les étapes que les autres ont suivies pour l'évolution technologique. Chez nous, ça risque d'être juste une publicité Et vraiment, je...
Voilà, merci beaucoup. Alors, si je comprends bien, je retiens simplement deux mots. Merci, Olivier, d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. La cybersécurité a un coût. Et vous avez donné l'exemple des États-Unis qui déboursent, disons l'année, 13 milliards de dollars pour assurer réellement la sécurité dans l'espace virtuel. Et vous avez évoqué également la difficulté d'ordre technique que rencontrera cette loi et aussi la formation, parce que la question qui demande beaucoup de moyens, il faut former des gens à lutter réellement contre ou à sécuriser cet espace. Merci beaucoup. Alain Bolodjoa, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Radio Capi, bonjour à Maître, votre invité. Bonjour à tout le monde.
Quelle est votre contribution, Alain? Après avoir suivi notre invité, ainsi que votre prédécesseur.
Effectivement, je sens que tout ce que je voulais dire a été balayé par les deux interventions. En commençant d'abord par votre invité. Premièrement, j'ai dit, j'avais déjà suivi qu'il y avait un projet de loi qui existait. Et fort malheureusement, je n'avais pas beaucoup d'éléments. Et voilà que votre invité vient de donner des détails. Déjà en 2017, il y avait un projet de loi qui existait et qui avait évolué. Fort malheureusement, jusque-là, on n'a pas connu, on n'a pas promulgué. On a encore une autre loi, un autre projet de loi qui vient s'ajouter. En principe, on devrait harmoniser pour que nous ayons une seule loi au lieu d'en avoir deux. Nous risquons de faire trop de redondances dans les textes et ça ne sera pas intéressant. Et deuxièmement, c'est dans l'applicabilité de cette loi. Effectivement, ça demande beaucoup de moyens, comme vient de le dire mon prédécesseur. Or, déjà, au niveau interne, nous avons des difficultés en termes d'organisation. Et il ne suffit pas seulement d'avoir une loi pour justement combler un vide qui existe, parce que nous avons tous besoin que cet espace soit régulé, soit réglementé ou normalisé, au risque d'avoir beaucoup de dérives. Et la difficulté réside, comme l'a dit mon prédécesseur, dans l'applicabilité de cette loi. D'abord, ça va demander à ce qu'il y ait une forte formation, qu'on essaie d'adapter notre appareil judiciaire. Déjà, ça va demander beaucoup de moyens en termes de recrutement, en termes de formation. Et deuxièmement, par rapport à l'administration, on doit aussi adapter notre administration, parce que nous avons déjà des problèmes avec les SIMBOX, qui apparaît dans d'autres cieux faciles à résoudre, mais ici, nous avons des difficultés énormes pour réguler cette situation. Ajouter à cela le problème de la cybercriminalité, ça va demander beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens pour d'abord commencer à identifier ceux qui ont de comptes sur la toile, arriver déjà à identifier les gens en termes d'adresse. Parce que généralement, ceux qui ont de comptes, par exemple dans Twitter, Facebook, ne donnent pas de vraies informations par rapport à leur âge, par rapport à leur identification. Il sera déjà difficile parce que déjà, on n'a pas la liste de Congolais, on n'a pas des empreintes, on n'a pas d'informations sur le Congolais. Alors, si je prends un nom qui ne m'appartient pas, ou je m'identifie par un faux nom, il sera difficile à l'administration d'identifier. Donc, ce qui sous-entend que nous lancer dans ce genre de débat, c'est bien, c'est pour souci d'anticipation.
Oui, c'est comme un commentaire que je suis en train de découvrir. Alain Bolodjoa, il y a un commentaire que je suis en train de découvrir ici. Un auditeur qui pratiquement abonde dans le même sens que vous, en disant que au regard de la particularité de la cybercriminalité qui réside dans sa transnationalité, son immatérialité, sa volatilité et les caractères anonymes de ces acteurs. Alors, ces nouveaux paradigmes ont du reste contribué à brouiller les repères du système pénal. Donc, c'est difficile de poursuivre un acteur anonyme et qui a brouillé son identité.
Non, mais effectivement, parce que nous voyons, il y a des enfants qui sont mineurs, qui ont de comptes Facebook, qui publient, qui peuvent aussi relayer certaines informations. Alors, dès lors que déjà, l'identification de Congolais pose problème, mais aussi le problème de l'espace. Parce qu'on peut s'identifier, on peut, en ouvrant son compte Facebook, on peut se dire, on peut donner l'information selon laquelle on est à Kinshasa alors qu'on est à Lubumbashi ou on est dans d'autres coins. Je ne sais pas s'il y a une technologie aujourd'hui qui va permettre à ce que l'on puisse identifier quelqu'un qui se connecte avec un faux nom, avec une fausse adresse, ça sera très difficile. Mais ce qui est important, c'est de retenir que même si nous n'avons pas cette technologie, nous pouvons anticiper sur le loi, c'est-à-dire la réglementation ou la normalisation de ces secteurs. Parce que c'est un espace. En tant qu'espace, l'État doit avoir une mainmise sur cet espace. L'État doit arriver à avoir une idée sur ce qui s'est fait. Mais ça demande beaucoup de moyens. Ça demande beaucoup de moyens. Moi, je crois que, bien que c'est nécessaire, mais on n'est pas encore prêt à faire face à la
cybercriminalité. Merci beaucoup, Alain Bolodjoa. On va lire quelques messages sur notre page Facebook. John Odian, merci d'avoir écrit. John dit ceci, je suis d'avis, cette proposition des lois, si telle n'existe pas, mon pays, la RDC, doit s'adapter au rythme. Bon, on découvre ça à peine parce qu'il vient à peine d'écrire. Je prends Patrice Moussouamba Moukendi qui nous écrit depuis Kassai Oriental. Je salue cette initiative de loi proposée par l'honorable Tony, car je constate depuis un certain temps qu'il s'est développé dans ce secteur plusieurs abus. Certains individus se permettent d'outrager nos autorités et de publier les images et textes immoraux à travers les réseaux sociaux. Stamas Elembo de la ville de Kisangani, je salue personnellement l'idée de l'honorable Tony Mwamba, mais c'est difficile de normaliser aujourd'hui dans notre pays l'espace virtuel, car c'est une question d'intérêt international qui implique le grand gestionnaire de ce monde de mettre en place des mécanismes de garde-fous qui régiront ce monde. Nous sommes sans ignorer que le monde marche actuellement avec la nouvelle technologie de l'information. La cybercriminalité est un fait accompli, nous dit lui Moulala, depuis Kolwezi, devant lesquels nous nous trouvons. Nos constituants avaient peut-être minimisé cela, mais nous sommes devant des crimes qui se commettent sur le numérique, dont on ne sait même pas comment résoudre les problèmes. S'il y a une proposition de loi dans ce sens, je pense qu'elle devra être la bienvenue. Voyez des crimes odieux du Congo central et beaucoup d'autres. Merci beaucoup, chers amis, d'avoir écrit et d'avoir participé à ces débats sur notre page Facebook. Alors, reviens à vous, Maître Kodjo Ndokouma. Vous êtes spécialiste en la matière. Vous avez suivi cette première série des auditeurs. Quelle est votre réaction?
Beaucoup de bonnes choses dites par M. Olivier de Kikuit, M. Alain Bolodjoa. Je prends en disant qu'aujourd'hui, l'Internet fait partie de ce qu'on appelle le cyberespace. Et le cyberespace, dans toutes les politiques des puissances aujourd'hui, est considéré comme le sixième continent. Ça veut dire à côté de l'air, de la terre et de la mer et de l'espace extra-atmosphérique, aujourd'hui nous avons l'Internet qui est un territoire opérationnel. Ce territoire opérationnel est un territoire opérationnel du crime aussi. C'est un territoire opérationnel de la guerre électronique. Vous avez vu les confrontations qu'il y a eu entre les États-Unis au niveau étatique avec la Chine. On se rend bien compte qu'il y a des confrontations et des déplacements, des conflits physiques dans le monde qu'on a appelé virtuel, mais c'est juste le monde immatériel. Maintenant, la formation dont a parlé M. Olivier, si nous devons répondre par la loi, ça ne suffit pas. Il faut mettre en place un dispositif national de cybersécurité. Ce dispositif procède de manière comparée avec les autres pays qui ont réussi. D'abord de la formation. Vous savez que partout dans les pays de l'OTAN, on a aujourd'hui des cybersoldats. Ça veut dire des informaticiens qui sont formés à la lutte informatique offensive et défensive pour pouvoir détecter les menaces contre le pays, contre le territoire cybernétique venant de l'extérieur. Nous avons également des magistrats référents. Ça veut dire qu'il y a des magistrats qui sont formés au même diapason, disons, comme moi, qui ont fait des spécialisations sur la cybersécurité, la cybercriminalité ou sur le droit du numérique, qui sont répartis ou disséminés dans des ressorts des tribunaux, de sorte que quand on a des cas de cybercriminalité, c'est vers eux, justement, qu'on envoie les dossiers d'instruction. Et en France, il y a un procureur, qui est le procureur cyber, qui a été nommé il y a quelques années. Je pense que c'était en 2016, mais en tout cas on peut vérifier, mais c'est il y a quelques années, que c'est le seul procureur qui a juridiction sur l'ensemble du territoire français. Alors, maintenant, la question de transnationalité, d'anonymat, de volatilité de l'information qui brouille le système pénal, les différents pays ont réussi à pouvoir résoudre chacun de ces problèmes. Et ça demande effectivement beaucoup de moyens. Vous savez, par exemple, au Congo, on a essayé en 2015, avec un arrêté du mois de mai ou d'avril, on a essayé de faire l'identification des abonnés, qui est devenue en fait une obligation de ce qu'on appelle le KYC, Know Your Consumer. Donc, mais nous avons au Congo 35 millions d'abonnés téléphoniques, et nous avons plus ou moins 16 millions parmi eux qui sont sur Internet. Dans le monde, nous avons 2,5 milliards de gens qui sont sur Facebook et 400 millions de personnes qui sont sur WhatsApp. Dont 100 millions, on pense, qui sont en Afrique. Alors, comment vous gérez cette population dans le cadre de l'ordre public numérique? Mmh. C'est pas un terme que j'invente, mais ce sont des doctrines qui ont été inventées pour transposer tout le dispositif policier, tout le dispositif d'identification physique dans l'identification numérique. Ce qu'on fait dans d'autres pays, les différents équipements informatiques, les téléphones par exemple, les numéros de téléphone sont couplés à une identité physique, de sorte que quand vous utilisez votre avatar informatique, ça veut dire vous utilisez votre pseudo, vous utilisez votre identifiant, on le rattache toujours à l'identité physique préexistante. Pour les mineurs, il est obligé pour ceux-ci d'avoir un dispositif de contrôle parental. Ça signifie que lorsqu'un mineur veut aller sur un site pornographique, il peut être réorienté par rapport à l'âge enregistré sur son téléphone vers un site de dessin animé pour ne pas compromettre la moralité de la jeunesse.
Tout à fait.
Mais la question aujourd'hui, on fait une loi, c'est une réponse juridique. Là où je suis, on est dans une conférence où un Sénégalais dit vous faites des lois, c'est comme si vous donnez un sifflet à un policier face à des criminels. Les criminels n'auront pas peur de son sifflet, il faut lui donner une arme. Donc, dans d'autres pays, on a réussi à créer cette police informatique qui est dotée d'un laboratoire de criminalistique informatique. Ça veut dire cette police peut suivre les adresses IP.
Les adresses IP.
Et suivre les adresses IP qui ont commis des problèmes, pouvoir isoler un dispositif informatique à partir de son email ou à partir de son numéro de téléphone et suivre l'activité informatique malveillante que la personne est en train de faire. Donc il faut mettre en place tout ce dispositif et effectivement ce dispositif est coûteux. Mais l'un des dispositifs les plus efficaces et les moins coûteux pour l'État qui a été mis en place, c'est chaque fois de pouvoir couper la source du problème, ça veut dire de couper l'accès au réseau. Mais ça pose le problème aux opérateurs de télécommunications parce que ça fait des manques à gagner. Il faut arriver à ce que nous avions fait dans le passé et nous avions inspiré cela au filtrage, aux besoins des sites ou des applications numériques à problème. Lorsque on se rend compte que l'ordre public est menacé, au lieu de tout couper, on peut se dire, avec la coopération des opérateurs, voilà, ne donnez plus accès pendant tel moment, et ça c'est la norme européenne, hein, que personne ne dit.
Maître Kodjo.
Ne donnez plus accès à telle donnée ou à telle autre.
Voilà, Maître Kodjo, on va revenir à vous, le temps de rouvrir encore les standards et d'accueillir les autres auditeurs qui veulent participer dans cette émission, mais nous rappelons à ceux qui viennent à peine de le rejoindre qu'ils peuvent aussi les faire en composant les 081 890 63 30 ou encore les 09 97 06 63 30.
Identité culturelle. La culture congolaise dans sa diversité. Sa richesse a un rendez-vous sur Radio Okapi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Identité culturelle, c'est tous les samedis à 8h30, dimanche à 10h05 et mardi à 13h30.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Trésor, vous êtes avec nous à Kinshasa. Bienvenue dans Parole aux auditeurs. Bonjour, Trésor. Trésor, vous êtes avec nous?
La question vient d'aider la RDC de sortir de la violation massive et flagrante du principe de légalité des peines consacrées par la Constitution. Puisque régulièrement, lorsqu'on poursuit des gens pour des infractions commises à l'aide de l'Internet, des technologies informatiques, ordinateurs, téléphones, les magistrats congolais, les juges congolais violent toujours ces principes
constitutionnel. Nous n'avons pas une loi appropriée qui punit les infractions commises à l'aide de l'Internet ou à l'aide des téléphones ou de tout ce qui est informatique ou nouvelle technologie de l'information et de la communication. Mais moi, j'ai une inquiétude d'abord par rapport à la loi qui souffre au niveau du cabinet du président de la République. Nous avons une loi, une nouvelle loi sur les télécommunications et nouvelles technologies de l'information qui a été déjà adoptée depuis 2018. Mais qui peine à être promulguée.
Oui, mais lorsque vous nous avez écrit, Trésor, lorsque vous nous avez écrit, vous avez dit que c'est ce qui a toujours manqué pour un Congo mondialisé. Vous pensez que ça doit être une loi complétant le code pénal congolais, non pas une loi autonome, afin d'éviter qu'elle s'éloigne de la constitution en vigueur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là concrètement?
Je veux dire, comme les parlementaires lors du débat, sur la loi dont j'ai évoqué tout à l'heure, que la Constitution n'a pas prévu la création de cette loi. Il n'y a vraiment pas un soubassement ou un article ou une disposition constitutionnelle.
Mais et pourtant, la Constitution parle de droits fondamentaux, notamment toute personne a droit à une dignité humaine.
Oui, les droits fondamentaux...
C'est dit de manière implicite. Déjà, oui, parce que si la loi sur la cybercriminalité vient renforcer également, c'est juste pour compléter cet article de la Constitution.
Oui, quand on parle de cybercriminalité, on voit les infractions, mais les infractions commises à l'aide de la technologie de l'informatique.
Oui, des infractions qui peuvent porter atteinte sur des personnes aussi.
Oui, là nous sommes en matière...
Faire perdre à une personne une dignité, par exemple.
Effectivement, nous sommes en matière pénale, mais de manière développée par rapport à la mondialisation, par rapport aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, le code pénal ne peut pas rester à l'écart de cette loi. C'est une loi qui viendra peut-être compléter le code pénal que nous avons, mais sous l'aspect informatique ou nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est pourquoi j'ai dit que la proposition ou la loi qui sera adoptée devra être une loi complétant le code pénal congolais actuel. Parce que nous avons également une loi, cette loi générale qui souffre au niveau du cabinet du président de la République. Nous ne savons pas ce qu'il y a dans cette loi, s'il y a des aspects de la cybercriminalité à l'intérêt, parce que là on a abordé d'une manière générale les télécommunications, donc il y a plusieurs aspects, commerce électronique et autres. Donc, on devrait promulguer cette loi pour nous aider à vérifier s'il y a vraiment les aspects de la cybercriminalité dans cette loi ou il n'y en a pas. Mais maintenant, cette loi vient comme une loi spéciale qui ne traite que de
la question de la cybercriminalité et sa réponse, la cybersécurité.
Comme il s'agit des infractions à l'aide de l'informatique, il faudrait que cette loi... Au code pénal.
Merci beaucoup, Trésor. Voilà. On va prendre Dieu merci qui est à Manono. Dieu merci, bonjour.
Bonjour, Gérard. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Quelle est votre contribution à ces niveaux du débat?
Oui, par rapport à cette loi, moi je félicite d'abord l'honorable initiateur, mais seulement j'ai une seule crainte pour moi. Cette crainte est liée à l'applicabilité de cette loi. Dans un pays comme celui-ci, dont le moyen logistique sont toujours limités. Et en plus, c'est une loi, si vous essayez de voir, jure, qui pourra rencontrer des défis et des difficultés graves. Vous savez, dernièrement, nous avons eu même le signal. Notre pays n'a pas payé pour, je ne sais pas moi, Rascom, là, les choix de satellites. Mais est-ce qu'on pourra mettre le moyen conséquent pour vraiment que cette loi soit applicable? Ça, c'est un problème. Il y a mon prédécesseur qui a parlé...
Oui, quand vous parlez de cette question des satellites, vous faites allusion aux chaînes qui sont dans les bouquets et qui ont été coupées actuellement. En tout cas, toutes les chaînes congolaises, toutes les chaînes des médias, en tout cas, ne diffusent plus. Hein, sur Canal+, vous voulez dire?
Oui, c'est tout un pays qui était invisible au monde. Maintenant, par rapport à cette loi, ça demande un coût trop élevé. Et si vous essayez de voir bien, Gérard, qu'est-ce que je vais dire ensuite? Bon, nous avons le problème de quoi? De brouillage des identités sur les réseaux ou en ligne.
Oui, la question de l'anonymat, je venais de le dire tout à l'heure, oui.
Oui, le pays n'est pas à mesure d'identifier les Congolais. Mais comment on saura identifier? Il y a les gens qui donnent des faux,
Mais peut-être que vous nous avez pris en cours de cette émission, mais notre invité vient d'expliquer tout à l'heure, il y a toujours moyen d'être tracé par l'identité IP.
Oui, bon, peut-être par l'identité IP, oui, jure, mais si vous essayez de voir bien, il y a aujourd'hui le mineur, vous venez de parler avec mon prédécesseur qui vient, que je viens de remplacer. Si vous essayez de voir, il y a le mineur, il est en ligne, mais avec d'autres identités, il ne présente pas ses vraies identités. Et comment on saura que c'est tel qui est utilisateur de tel compte? C'est là aussi le cette loi pourra souffrir, JR. Ça, ça demande une autre technologie, ça demande des moyens logistiques très, vraiment, très, très, très importants.
Alors, donc, si je comprends bien, pour vous, c'est une question de transversalité. Oui, c'est une question transversale, et cette transversalité doit être prise en compte, sinon les résultats risquent d'être celui pas escompté. Merci beaucoup, Dieu merci, d'avoir appelé des Manono, et merci d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission sur la cybercriminalité et sa réponse, la cybersécurité, qui est inscrite dans cette loi proposée par l'honorable Tony Mwaba. Albert, vous êtes à Mbandaka, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour aussi à l'invité.
Quelle est votre contribution?
Ouais, j'ai une petite contribution et j'ai une petite préoccupation aussi. Je dois commencer par ma contribution. Premièrement, pour moi, pour lutter contre les cybercriminalités dans le monde ou dans notre pays, nous devons être à contact à ceux qui sont chargés de l'Internet au niveau mondial. Et après cela, nous allons lutter contre les cybercriminalités. Et ma préoccupation est la suivante. J'ai peut-être demandé à l'invité quel est le rôle de l'Internet dans le monde actuel.
Merci beaucoup. Alors donc, signalons-le, d'ailleurs, en ce moment où nous réalisons, nous produisons cette émission, et c'est également à Kinshasa, un forum sur comment investir dans le numérique en RDC. Donc c'est pratiquement les efforts qui sont fournis par les présidents Félix Antoine Tshisekedi et d'autres membres qui sont vraiment actifs dans ces secteurs pour arriver à redorer l'image de la RDC dans ce secteur numérique. Merci beaucoup, Albert. Alors, on revient à vous, Maître Kodjo. Si vous pouvez peut-être placer également un mot sur ce forum qui se tient d'ailleurs tout à l'heure, investir dans le numérique en RDC et toutes les difficultés évoquées par les auditeurs.
Bon, déjà, il y a le paradoxe du progrès. Hein. C'est très bien, on investit dans le numérique qui est aujourd'hui incontournable pour l'économie électronique. Pour la publication rapide et dans l'ensemble du pays des résultats d'examen d'État, pour tout ce qui est transfert d'argent, pour tout ce qui est apprentissage sur Wikipédia, les recherches des étudiants et tout le reste. C'est vraiment très bien en termes du rôle de l'Internet dans le monde actuel, parce que c'est pas que la communication, on peut également avoir tout ce qui est médias qui sont véhiculés grâce à Internet. Et on peut avoir la presse en ligne, on a plusieurs informations qui nous arrivent. Ça, c'est le rôle et le bienfait d'Internet. Mais il y a la cyberdépendance. Ça veut dire, dès qu'on vient, on se connecte au réseau numérique, on en devient dépendant. Et on s'est bien rendu compte que les distributeurs automatiques de billets dans les banques, lorsqu'on a coupé Internet sur l'ensemble du pays pour la première fois, il était difficile de pouvoir retirer son argent parce que les distributeurs automatiques ne dialoguer plus avec le serveur central des comptes qui sont au niveau des banques. Maintenant, nous sommes sur le sujet de la cybercriminalité, c'est vrai, qu'il faut des techniques de législation et de codification qui vont aller modifier le code pénal. Le code pénal date du décret de 1940, mais on a pris les lois contre les violences sexuelles et ces lois sont venues renforcer le dispositif général du code pénal. Donc il n'y a pas trop de soucis, on va faire l'insertion dans ce sens. Mais ce qui est important, et c'est ce que vous aviez dit à cet intervenant, monsieur dont j'ai retenu le nom.
Les trésors l'icône, là, oui.
Trésor, oui, trésor. Et vous lui dites que c'est la protection des droits fondamentaux. Derrière chaque incrimination, il y a une fonction qu'on appelle la fonction axiologique. Ça veut dire qu'on protège une valeur. La donnée de la jeune fille qui a ses photos intimes, il faut la protéger dans son téléphone. L'argent du petit épargnant qui dans son compte, je ne sais pas moi, Airtel Money, M-Pesa ou Orange Cash, a sa petite épargne. Il faut protéger ça autant qu'on protège les gens contre, les attaques, les fourgons blindés et tout le reste. C'est ce qu'il faut voir, la protection des valeurs que nous exigeons comme fondamentales et qui doivent également être protégées, même si ces valeurs sont mises en danger en ligne. Mmh. Alors, maintenant, il faut prendre les contacts. Je suis très content avec celui qui a appelé de Manono. Il faut prendre les contacts avec ceux qui sont en puissance technologique sur le niveau global. Vous savez que le ministre, à l'époque, des médias, Mende, était passé à la télé. C'est une information publique. Parce qu'il était allé prendre contact avec Facebook pour que, possiblement, s'il y a des mauvaises publications sur le pays dont il faut assurer l'image, que Facebook coopère et collabore avec l'État congolais pour supprimer ou pour pouvoir rendre impossible d'accès ces communications. Et c'est ce qui se fait en Europe. Vous avez également la coopération qui peut être faite avec Google. Lorsque vous avez une requête qui est faite sur Google contre un contenu qui dérange un pays, Google peut le déréférencer. Alors, maintenant, il y a deux petites choses. Il y a la convention de lutte contre la cybercriminalité et la protection de données personnelles adoptée par l'Union africaine à Malabo en 2014. Alors, cette convention, pour entrer en application, a besoin de 7 ratifications. Il y a déjà la Guinée et le Sénégal qui l'ont ratifié, et il y a le Congo-Brazza qui l'a également ratifié. La République démocratique du Congo doit ratifier également cette convention parce que le cyberespace ne se limite pas qu'aux frontières physiques de la RDC et il faut la coopération avec les différents États pour pouvoir traquer le criminel et répondre à cette question de transnationalité. Il y a aussi la convention de Budapest de 2001 de lutte contre la cybercriminalité qui est votée par le Conseil de l'Union européenne et qui est entré en application en 2004, qui permet, lorsque vous le ratifiez, d'avoir une coopération avec les États beaucoup plus puissants qui amènent votre niveau de dispositif de sécurité à un standard qui vous permet au moins de pouvoir répondre à certaines questions. Alors, il y a aussi la coopération qui est possible avec d'autres services d'investigation comme l'Interpol, qui est dans la lutte contre dans la lutte internationale contre la criminalité et qui a un volet également de lutte contre les cybercrimes. Donc, il faut entrer dans ces grands ensembles, mais c'est question, un, de formation, deux, de dispositifs multi-acteurs et multidimensionnels de lutte contre la cybercriminalité, et trois, c'est aussi question de moyens, quatre, finalement, c'est une question d'éducation. Vous savez que nous utilisons le téléphone pour blaguer, pour envoyer n'importe quoi, mais aujourd'hui, dans le cours de civisme à l'école élémentaire où nous avons nos enfants, on leur apprend comment on utilise l'Internet pour que les jeunes enfants blancs, je le dis comme ça, excusez-moi, ne puissent pas se filmer ni se mettre en vedette sur les réseaux sociaux. Et vous remarquez que c'est le comportement de chacun qui l'expose. Il y a une victimologie de la cybercriminalité qui fait que les personnes se filment elles-mêmes. Dans leurs débats amoureux, c'est les personnes elles-mêmes qui s'offrent en public. Je voudrais juste donner à Monsieur Trésor deux jurisprudences. Avant que nous commencions l'émission, il y a eu un flash sur le procès Kamwena Sampou. On vous dit bien que les moyens de preuve qui sont utilisés dans le procès Kamwena Sampou sont des enregistrements téléphoniques ou alors des données tirées des traces technologiques dans les réseaux de télécommunications. Vous avez également une jurisprudence au Congo où on peut encore discuter, hein, parce que c'est les droits de la défense, mais il y a eu un ancien député provincial qui a été condamné pour outrage du simple fait qu'on a trouvé, par un tribunal naturellement, et c'est public, du fait qu'on a trouvé dans son téléphone des éléments qui étaient jugés comme constitutifs de cette infraction.
Voilà, Maître Kodjo Ndoukouma, on revient à vous rapidement. Oui. L'état d'écouter deux derniers auditeurs et puis on va conclure cette émission. Glody, vous êtes à Bandounouville. Bonjour Glody.
Oui, bonjour M. Jure, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capitale.
Alors, quelle est votre contribution?
Oui, merci beaucoup pour la parole accordée. Je pense bien que sur le monde numérique, il y a beaucoup de dossiers, encore beaucoup de problèmes qui se passent au niveau de la monde numérique. Dans notre pays, je ne sais pas s'il y a un serveur contrôle qui sont là pour contrôler des événements qui se passent sur Internet. Vous allez voir un mineur qui utilise l'Internet et qui arrive même de publier des bêtises, des films pornographiques, des choses comme ça, et qui arrive même à salir les réputations des autorités du pays. Alors, quelles sont les décisions prises par rapport à ces décisions?
À cette loi.
Parce que nous devons mettre un peu du sérieux. Nous ne pouvons pas dire ça seulement par théorie, mais nous devons le mettre
en pratique. Merci beaucoup, Claudie, parce qu'on n'a plus assez de temps. Simon, vous êtes à Kadanga. Bonjour, Simon.
Ouais, bonjour, JR, hein. Bonjour également à notre invité. Et c'est un peu décevant que j'intervienne dans les dernières minutes parce que...
Oui, vous avez juste une phrase.
Placez juste un mot. Ingénieur réseau et télécommunication. Bon, je voudrais juste rejoindre notre invité, hein. Et puis essayer de recadrer d'autres intervenants qui sont allés un peu à l'encontre de ces projets ici. Vous savez, JR, dans le domaine de sécurité, nous ne devons pas seulement dire qu'il n'y a pas de moyens, alors que nous sommes en train de nous plaindre par rapport à ce qui se passe sur les réseaux Internet. La cybersécurité n'a pas seulement but de pouvoir poursuivre ceux-là qui publient les fausses informations, mais c'est ça aussi le but de pouvoir empêcher que les informations fausses ne puissent pas avoir accès à l'Internet. Et cela va de notre intérêt parce qu'aujourd'hui nous voyons combien même l'éducation de nos enfants est mise en cause. Donc, mettre ça en place.
Merci beaucoup. Malheureusement, on n'a plus assez de temps pour vous laisser parler. En tout cas, merci beaucoup, Simon. Merci beaucoup, Simon. Alors, on va conclure cette émission avec vous, Maître Kodjo Ndokouma. Vous êtes professeur et également un spécialiste en cybercriminalité. Qu'est-ce qu'on peut retenir? La loi, elle est opportune, mais il va falloir faire quelques réajustements et aussi trouver, comme l'a demandé un auditeur, il faut un lien étroit entre cette loi et les codes pénals.
Oui, sur ce point, ce commentaire, cette synthèse, nous sommes tout à fait d'accord. Je dis simplement que selon les statistiques de janvier 2017 à septembre 2018, qui renseignent 1882 cas de cybercrime avec plainte à la police, nous avons la pédopornographie qui est recensée 450 fois dans les statistiques du moins que nous avons, ce qui montre l'exposition des mineurs suite à l'accès qu'ils ont sur Internet, et donc il faut une politique là-dessus. Les fake news, c'est très important parce que ça fait la communication d'influence. Il n'y a pas deux grands États comme la Russie et les États-Unis, et la plupart des journalistes disent que 130 millions d'électeurs américains avaient pu être influencés dans les dernières élections suite aux fake news et à la communication d'influence sur Internet. Donc on peut également avoir une politique spéciale. Je sais qu'il y a eu un groupe de journalistes avec Patient Ligodi et Israël Moussama qui avaient fait tout un atelier sur comment lutter contre les fake news. Et puis il y a la sextortion. La plupart des gens qu'on publie dans les sextapes, c'est des gens à qui auparavant, dans le modus operandi, les gens demandent de l'argent en disant « j'ai trouvé vos photos, si vous ne me donnez pas l'argent, je publie ». C'est ce qu'on appelle l'extorsion, mais on dit « sextortion ». Et donc il faut, par rapport à la politique criminelle nationale et à la politique judiciaire nationale, cibler un certain nombre de choses plutôt qu'au besoin de nous éparpiller sans avoir les moyens. Parce que comme le dit Sun Tzu, et je finis par là, si on a peu de moyens, on défend. Et si on a beaucoup de moyens, on attaque. Faisons l'économie de nos moyens avec la politique criminelle et judiciaire de nos moyens face à la cybercriminalité.
Maître Kodjo Ndokouma, merci d'avoir accepté d'échanger avec nous pendant ces 57 minutes interactives. À très bientôt, maître.
Merci, au revoir.
Merci également à tous d'avoir participé à cet échange citoyen. Merci à Mimi Kindou qui a assuré la mise en onde de cette émission réalisée par Nico Kalambay. Jir Lungembo, Luabung, Anjiaï, le plaisir de la présenter. On se retrouve demain dans un autre numéro de Paroles aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.